Merci pour votre fidélité au programme de VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous. Vous êtes bien sûr sur VOA Afrique que nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis. Dans l'Amérique et vous, édition de ce vendredi 2 juillet 2021, nous parlons du racisme dans le monde. Les États doivent prendre des mesures immédiates contre le racisme systémique dont sont victimes les Noirs. C'est ce qu'a réclamé Michelle Bachelet, haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, lundi, quelques jours après la condamnation aux États-Unis de Derek Chauvin, ce policier blanc qui a tué George Floyd. Seules les approches qui s'attaquent à la fois aux lacunes endémiques des forces de l'ordre et au racisme systémique et à ses origines rendront justice à la mémoire de George Floyd et de tant d'autres dont la vie a été perdue ou irrémédiablement affectée, a déclaré Mme Bachelet lors de la publication d'un rapport demandé par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU en référence à l'Afro-Américain devenu le symbole des victimes des violences policières et raciales aux États-Unis après son meurtre le 25 mai 2020. D'après le rapport du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le racisme systémique induit que les populations africaines ou d'ascendance africaine se retrouvent marginalisées économiquement et politiquement. Elles n'ont pas le même accès que les autres à l'éducation ou à des soins de santé de qualité ou se retrouvent sous-représentées dans la société. Et pour nous accompagner dans ce programme, nous avons comme invité ici à Washington, René Lec, analyste politique. René, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, John.
Du côté de Genève, nous avons Ravina Shamdazani, elle est porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Madame Ravina Shamdazani, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, John. Merci beaucoup.
Également avec nous, l'activiste Ruben Joannem depuis Minneapolis. Ruben Joannem, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir à tout le monde.
Alors, on va commencer par vous, Madame Ravina Shamdazani. Qu'est-ce qui vous a poussé, quand je dis vous, c'est la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme, donc à produire ce rapport sur le racisme dans le monde?
Oui, merci Jean. En fait, c'est le Conseil des droits de l'homme à Genève qui a chargé le commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à produire ce rapport. Et c'est à la suite du meurtre de George Floyd aux États-Unis. Le Conseil a trouvé que c'est nécessaire de faire un rapport global pour vraiment examiner la situation de racisme systémique partout dans le monde et de regarder aussi les décès imputables aux forces de l'ordre dans différents pays.
Alors, René Lec, on le disait en introduction tout à l'heure, les États doivent cesser de nier le racisme et commencer à le démanteler. C'est ce que souligne le rapport dans sa globalité. Comment cesser de nier le racisme et surtout comment le démanteler quand on voit ce qui se passe dans nos sociétés, que ce soit ici aux États-Unis ou même ailleurs dans le monde?
Oui, tout à fait, John. On ne peut rien faire, on ne peut rien régler si on ne reconnaît pas d'abord les faits, si on n'analyse pas la situation telle qu'elle est. Je me souviens, il y a quelques mois, c'était je crois l'année dernière, Bill Barr, le ministre de la Justice américain, l'Attorney General comme on dit ici, de ministre de la Justice de l'administration Trump, à qui on posait la question « Est-ce qu'il y a un racisme systémique aux États-Unis » et il dit non. Et ça, c'est le ministre de la Justice dans l'un des systèmes judiciaires les plus racistes de la planète. Et l'entendre dire quelque chose comme ça, vous vous dites, mais attendez, où est-ce qu'on va commencer? Comment on va faire? Comment les lignes vont-elles bouger si à ce niveau de responsabilité, on ne reconnaît pas l'évidence? Alors qu'il a les chiffres devant lui, il sait que les Noirs ont trois fois plus de chances d'être arrêtés par des policiers, ont des peines de prison beaucoup plus longues que les Blancs, etc., etc. Il a les chiffres, il sait très bien qu'il y a un racisme systémique dans le système judiciaire. On parle ici des États-Unis, mais c'est vrai malheureusement à travers le monde, et en particulier ici et en Europe en ce qui concerne la discrimination contre les Noirs.
Une discrimination aux États-Unis qui se manifeste également aussi par le nombre très élevé de Noirs dans les prisons américaines. Ruben Joanem, vous êtes à Minneapolis. C'est chez vous que George Floyd a été tué par ce policier blanc du nom de Derek Chauvin. La mort de George Floyd a provoqué un véritable séisme dans le monde et mis au grand jour les actes racistes à travers la planète. Est-ce que vous pensez que le monde aujourd'hui a vraiment pris conscience que le racisme est un fléau qu'il faut combattre et abolir?
La réponse, ça va dans les deux directions. Il y a encore les gens qui sont dans l'unanimité, nier l'existence du racisme systémique au niveau des États aux États-Unis, que ce soit dans le Minnesota, surtout à Minneapolis, que ce soit dans les États du Sud et ailleurs. Il y a des gens qui se rangent du côté des deniers, comme on dit en anglais. Mais il y a également une bonne partie de la population qui a été mobilisée pour se lancer dans une lutte antiraciste, pour dénoncer le niveau du racisme dans les institutions, que ce soit les institutions religieuses, que ce soit les institutions administratives de l'État, un peu partout. Donc c'est là, noir sur blanc, la population carcérale est un témoignage vivant de ce qui existe, de ce problème aux États-Unis. On a également une équipe de suprémacistes blancs en habit de police qui sont chargés de gérer la mise en application des lois. Ces gens, armés de leurs pistolets, ils peuvent abattre quelqu'un en un clin d'œil, sous prétexte que leur vie a été menacée. Donc, à partir de cette déclaration passe-partout, on peut abattre un nègre à n'importe quel moment ici à Minneapolis, ou bien dans l'État voisin, dans le Wisconsin, à Milwaukee, ou bien dans l'État d'à côté, dans Iowa. Donc, le problème est vraiment profond.
Le problème est profond, Ravina Shambazani. On parle ici d'une question que tout le monde voit, je vais dire une situation que tout le monde voit, le racisme, et pourtant les gens continuent de nier. Le rapport de votre institution appelle les États à adopter des mesures mobilisant l'ensemble des pouvoirs publics. Est-ce que votre message est compris par ces États?
Oui, je pense que le fait que le Conseil des droits de l'homme nous a chargé à faire ce rapport et la commissaire va le présenter au Conseil le 12 juillet, c'est très important parce que nous avons adopté une approche globale et nous avons précisé que le racisme systémique nécessite une réponse systémique. Nous devons adopter une approche globale et non pas fragmentaire. Et nous avons vu que nous avons examiné plusieurs États et nous avons vu qu'aucun État n'a pas pu adopter une approche systématique ou bien compréhensive à lutter contre ce problème. Mais nous avons trouvé qu'en fait, il y a des tendances et des similitudes frappantes, notamment en ce qui concerne les obstacles que rencontrent les familles pour accéder à la justice. Ce n'est pas seulement un problème aux États-Unis, même si le cas de George Floyd a mis en lumière ce problème. C'est un problème global, en fait. Mais aussi dans le rapport, on a vu qu'il y a en fait plusieurs initiatives dans des États pour faire des réparations. Il y a des initiatives locales, nationales et régionales prometteuses. Et on peut apprendre beaucoup de choses en examinant ces initiatives, y compris les réparations, mémorialisation, des excuses et des procès pour commencer à lutter contre le racisme systémique.
Je vais vous relancer, Madame Ravina, et je souligne à l'attention de nos auditeurs que nous parlons ici beaucoup plus précisément du racisme des Noirs, parce qu'il existe aussi un racisme contre les Asiatiques et accessoirement contre les Blancs. Dans le rapport que vous avez produit, quels sont les pays qui se distinguent, j'ai envie de mettre ça entre guillemets, négativement en termes de racisme?
En fait, nous avons regardé plusieurs pays. Hein. Je pense qu'on a examiné plus de 60 pays. Nous avons mis aux lumières précisément. Alors, il y a 7 cas de déchets imputables aux forces de l'ordre. Brésil, États-Unis, Royaume-Uni, France et la Colombie. Où on a vu très clairement les obstacles que rencontrent les familles pour accéder à la justice et vraiment la discrimination raciale dans l'application de la loi qui ne peut pas être séparée des questions liées au racisme systémique. Donc on a vu dans plusieurs pays, même la Belgique et plusieurs pays. Vous avez raison que le racisme, ça, c'est pas seulement contre les personnes noires. Il y a beaucoup d'autres formes de racisme aussi. Mais le racisme contre les noirs, il y a une histoire de la traite transatlantique des Africains. Et une histoire du colonialisme qui est très spécifique, qui toujours, aujourd'hui aussi, il y a des effets de cette histoire dans la vie quotidienne des personnes noires.
René Lec, lorsqu'on regarde le racisme dans le prolongement de ce que Mme Ravina Chambazani disait tout à l'heure, au plan global, on se rend compte qu'il y a une race qui est sinon toujours, mais plus souvent victime du racisme, c'est la race noire. Qu'est-ce qui explique cela selon vous, si vous pouvez compléter la réponse de Mme Chambazani?
Oui, John, il y a la base est une base historique, c'est le développement des rapports de force entre les sociétés, les civilisations, si vous voulez utiliser ce mot, historiquement. Et c'est porté par un certain nombre de, j'allais dire, d'idéologies que l'on peut considérer, j'ai presque envie de dire, d'idéologies religieuses. Beaucoup de religions le portent, la question de la malédiction de Caïn, qui se déporte vers le sud, prend la direction de l'Afrique. Donc il y a même une justification idéologique qui remonte à des milliers d'années. Donc bon, et mais maintenant, mais le plus important, je crois, et ça, Ravina vient de le dire, c'est d'abord et avant tout, de mon point de vue, d'un point de vue très concret dans le racisme moderne que l'on vit aujourd'hui, c'est le prolongement des 4 siècles d'esclavage ici aux États-Unis et de la colonisation particulièrement violente de l'Europe sur le continent africain et qui malheureusement aujourd'hui se prolonge encore sous des formes différentes. Donc voilà, et bon, je crois que, et c'est ça qui fait qu'il y a une telle difficulté à reconnaître la situation, parce que reconnaître aujourd'hui le racisme systémique remet en cause énormément d'intérêts dans le monde d'aujourd'hui. C'est ça qui fait que même d'un point de vue historique, il n'y a pas de consensus sur l'impact extrêmement négatif que cela a pu avoir sur des millions et des millions et des millions d'êtres humains.
René Lec, comment s'attaquer à la situation lorsque aux États-Unis, et j'aimerais que vous expliquiez un peu cela à nos auditeurs, quand il y a des systèmes comme celui des zip codes où en fonction du zip code où l'on vit, on peut avoir droit à certaines choses et pas à d'autres. Est-ce que vous pouvez élaborer pour nos auditeurs.
Oui, en fait, c'est un peu la ségrégation par la géographie et les revenus. En fait, principalement par les revenus et du coup, en conséquence, la conséquence, c'est que ça se situe, ça a un impact géographique. Qu'est-ce qui se passe? Certains, dans un pays comme les États-Unis, dans les grandes villes, certains quartiers sont des quartiers où les habitants ont des revenus particulièrement élevés. Donc, tout ce qui est service public est de bonne qualité, y compris la police, l'état des routes, mais surtout et principalement, et c'est cela certainement le plus important, le système éducatif, les écoles, etc. Vous allez dans d'autres quartiers où les gens ont des revenus les moins élevés, comme par hasard, et je dis ça pour en être de manière un peu ironique, bien entendu, ce sont les quartiers noirs où les revenus sont les moins élevés et où le système éducatif est littéralement d'une médiocrité indescriptible, où il se pose des problèmes de sécurité, tout ce qui est le service public n'est littéralement pas opérationnel. Donc, il est évident qu'un enfant qui naît et qui grandit dans un zip code, comme vous disiez, où il y a des revenus importants, a autrement plus de chances de s'en sortir dans la vie que celui qui naît dans un espace géographique, dans le ghetto, comme on dit, pour parler un peu familièrement.
Ravina Eshandazani, la haute commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, Michelle Bachelet, demande à ce que les États prennent des mesures immédiates contre le racisme systémique dont sont victimes les Noirs. Au-delà de ce rapport, quelles sont les mesures concrètes qui peuvent être prises pour amener les États justement à prendre ces mesures dont parle Mme Bachelet?
En fait, Mme Bachelet, elle donne beaucoup d'importance sur des mouvements comme Black Lives Matter. Elle dit que le militantisme de la société civile est crucial pour faire avancer les idées, les objectifs ambitieux dans ce domaine. Le mouvement Black Lives Matter et d'autres groupes similaires de la société civile dirigeants, c'est important qu'ils soient dirigés par les personnes d'ascendance africaine. Elles ont produit des initiatives locales ancrées dans l'écoute des populations. Et ça, c'est très important que les mesures soient ancrées dans l'écoute des populations. Elle a aussi recommandé au Conseil des droits de l'homme d'instaurer un mécanisme spécifique. Et c'est très important que ça soit limité dans le temps, où on peut renforcer un mécanisme existant en vue de promouvoir la justice et l'égalité raciale dans le contexte d'application de la loi partout dans le monde. C'est un problème mondial et systémique et elle a lancé un appel urgent que ça soit... qu'on adopte une approche globale pour démanteler des systèmes de racisme.
Robin Joannem, depuis la mort de George Floyd et la mobilisation qui s'en est suivie ici aux États-Unis et à travers le monde, et depuis la condamnation de Derek Chauvin, qu'est-ce qui a changé à Minneapolis sur ces chapitres du racisme quand vous circulez dans les rues et que vous voyez la police ou même les Blancs se comporter?
Bon, il y a eu depuis lors une attitude un peu plus ou moins optimiste. Les gens pensent que dans certains cas, il y a moyen d'avancer un peu les choses, mais tout le monde est dans l'attente, dans une sorte d'attente, et les résultats escomptés peuvent ne pas se produire dans la mesure où les instances municipales, les conseils de ville, tout et tout, sont en train d'élaborer des lois, de prendre des mesures. Seront-elles proportionnelles et immédiates par rapport au problème? Là encore, il reste à voir. Mais de toute façon, les attitudes ont légèrement changé. On respire un air de répit, quoi. On pense que les choses peuvent s'améliorer et dans un avenir qu'on espère ne pas être trop lointain.
Alors, René Lec, pour que les choses s'améliorent, il y a des efforts qui sont faits par certains, notamment au niveau du Congrès. Il y a la réforme de la police qui tarde à prendre de l'envol. Il y a comme une certaine hypocrisie, même au niveau des représentants, que ce soit à la Chambre ou au Sénat, où tout le monde est d'accord qu'il y a le racisme, mais personne ne veut faire bouger les rangs. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas?
Oui, écoutez, je pense que la première, le niveau zéro, c'est ce dont vous parliez tout de suite. Il faut une reconnaissance du caractère systémique du racisme à tous les niveaux, à commencer par celui que vous indiquez tout de suite, celui du Congrès dans le jeu politique. Vous prenez un pays comme les États-Unis, il y a eu 1314 sénateurs dans l'histoire de ce pays. Sur ces 1314, il y a eu 11 noirs. Ça vous montre que le système politique lui-même, le système de représentation, est lui-même est raciste et ça pose un gros problème.
Ravina, vous voulez dire un mot? Qu'est-ce que les États doivent faire concrètement? Quel est votre point de vue sur la réforme de la police, par exemple, aux États-Unis, la question des armes, parce que c'est elles qui très souvent sont utilisées pour tuer? Est-ce que vous vous attaquez à ce genre de cas au Conseil des droits de l'homme?
Oui, en fait, la haut-commissaire, elle a dit aussi qu'on doit vraiment réimaginer le maintien de l'ordre par la police et réformer le système de justice pénale. Parce que c'est clair qu'il y a des effets discriminatoires sérieux pour les personnes noires, pour les personnes d'ascendance africaine. Et on a vraiment besoin d'une forte volonté politique d'accélérer l'action en faveur de la justice. Comme a dit René, la participation politique personnes d'ascendance africaine est très très peu dans les États-Unis, mais aussi dans beaucoup d'autres pays, notamment en Amérique du Nord, Amérique du Sud et en Europe.
On arrive bientôt à la fin de ce programme. On va faire un dernier tour de table pour le mot de la fin. Je vais commencer par vous, Ruben Joannem.
Justement, il faut une réforme profonde de la justice criminelle ici aux États-Unis.
René Lec, le mot de la fin pour vous.
John, écoutez, la mère de tous les racismes, c'est le racisme anti-noir, il faut le dire, il faut l'exprimer clairement. Ce serait formidable d'imaginer un sommet sur la reconnaissance justement du racisme anti-noir, un sommet des Nations Unies ou en tout cas une grande messe internationale de cette nature pour poser le débat très très clairement et dire que bon, cela doit avoir des conséquences. Il faut régler la question systémique dans un pays comme les États-Unis. La question des réparations qui revient à l'ordre du jour doit être prise au sérieux. Le professeur Dariti Williams de Duke University estime entre 10 à 12 trillions de dollars le montant d'investissement qu'il faudrait pour qu'il y ait des réparations qui soient significatives et qui bénéficient à l'ensemble de la communauté noire dans ce pays pour rattraper le gap qu'il y a entre eux et les Blancs.
Ravina, le mot de la fin pour vous.
Merci, John. Je vous transmets le message de la haut-commissaire Michelle Bachelet. Elle a dit que la mobilisation mondiale en faveur de la justice raciale a conduit à une prise de conscience longtemps retardée du racisme et a placé au centre des débats le caractère systémique racisme et les institutions qui le perpétuent. Seules les approches qui s'attaquent à la fois aux lacunes endémiques des forces de l'ordre et au racisme systématique et à ses origines rendront justice à la mémoire de George Floyd et de tant d'autres dont la vie a été perdue ou irrémédiablement affectée.
Et c'est par ces mots qu'on va mettre fin à cette édition de La Méritez-vous, émission produite et réalisée par Lionel Gaïma, présentation John Lydon. Merci à nos invités et à vous d'avoir suivi. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com où vous pouvez réécouter cette émission ou vous informer sur l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.